RFI, 20h, temps universel, 21h à Paris.
Adrien Delgrange.
Place au journal En français facile. Je suis ce soir avec Zéphirin Quadio pour vous le présenter. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir Adrien, bonsoir à toutes et à tous.
Au sommaire de cette édition, en Syrie, la chute de Barouz, dernier fief du groupe État islamique. Est-ce pour autant la fin de Daesh ? De nombreux dirigeants internationaux restent prudents. De très nombreux morts au Mali ces dernières heures, des individus armés ont tué plus d'une centaine d'hommes et de femmes appartenant à la communauté Peul. Des déclarations d'amour à l'Union européenne. Beaucoup de Britanniques se sont rassemblés à Londres pour dire non au Brexit aujourd'hui. Et puis en France, les gilets jaunes, moins de casse que samedi dernier. Aujourd'hui, des affrontements tout de même sont à noter à Lyon, Montpellier, Bordeaux et Nice. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous.
Le journal en France est facile.
Barouz a été libéré, la victoire militaire sur Daesh a été remportée, écrit sur Twitter Mustapha Bali, porte-parole des FDS.
Le groupe État islamique a perdu son dernier fief, son dernier bastion syrien dans la ville de Barouz, déclare aujourd'hui les FDS, les forces démocratiques syriennes, une alliance soutenue par les Occidentaux. La prise de ce dernier endroit de Barouz était plutôt prévisible, même s'il a fallu de longues semaines et de violents combats menés par les FDS pour y parvenir. Alors, cette ultime bataille clôt un chapitre, celui de l'ascension, de la progression, puis de la chute du groupe État islamique, Nicolas Falaise.
2013, la guerre fait rage en Syrie et une organisation djihadiste commence à faire parler d'elle. L'État islamique en Irak et au Levant, dont les combattants, souvent étrangers, n'hésitent pas à s'en prendre aux groupes rebelles syriens. L'organisation s'empare de la ville syrienne de Raqqa, puis réalise une fulgurante percée en Irak. Juin 2014, les djihadistes hissent leur drapeau noir sur Mossoul, deuxième ville d'Irak. Et dans une mosquée de la ville, un homme proclame l'établissement d'un califat à cheval sur les deux pays. Le groupe se fait désormais appeler État islamique et son prétendu calife se nomme Abou Bakr al-Baghdadi. La même année, une coalition internationale se forme sous commandement américain. Kobané en Syrie est la première défaite du groupe djihadiste début 2015, mais il faudra plusieurs années de combat pour vaincre l'organisation djihadiste dont le territoire sert à planifier des attentats comme ceux de Paris. Mossoul et Raqqa sont reprises en 2017. L'Irak proclame alors la fin de la bataille sur son sol, mais elle se poursuit en Syrie jusqu'à ses dernières heures. Ces années de guerre anti-djihadiste ont coûté des milliers de vies, y compris civiles, et causé d'immenses destructions.
Nicolas Falaise et puis plusieurs dirigeants du monde ont salué la chute du groupe État islamique tout en appelant à maintenir la vigilance face à la menace djihadiste.
Les États-Unis, par exemple, disent rester vigilants, prudents, afin d'éradiquer, d'éliminer l'État islamique partout où il est actif, déclare le président Trump. Pour Emmanuel Macron, un danger majeur pour notre pays est éliminé, mais la menace demeure. Et puis enfin, la première ministre britannique Theresa May déclare « La libération du dernier territoire détenu par Daesh est une étape historique. »
Dans le centre du Mali, c'est un véritable massacre qui s'est produit ce samedi matin dans un village de la communauté Peul.
Des assaillants habillés en chasseurs traditionnels ont tué plus de 100 personnes. Ça s'est passé dans la localité d'Ogassagou et le bilan pourrait être encore plus lourd à Bamako. Le récit de Serge Daniel.
Cheikh Harouna Sankari est le maire d'une commune du centre du Mali. Comme d'autres bouleversés, il décrit la scène. Tôt ce samedi matin, des hommes armés débarquent dans le village de Ogossagou, non loin de la ville de Bankass, je cite, massacrant plusieurs dizaines de civils peuls. Fin de citation. Un autre élu donne des détails. Le chef de village, Amadou Belkobari, est tué devant sa mère, qui sera un peu plus tard à son tour exécuté. Un chef religieux local, du nom de Bara Sekou, également tué. Dans la furie, les assaillants n'épargnent personne, les femmes, les enfants, les jeunes et les vieillards. tous de la communauté Peul, et comme s'ils s'étaient bien préparés, alors qu'un groupe tuait sans discernement un autre groupe de chasseurs traditionnels, mettait le feu aux cases. Dans le village de Ogosagou, il y a également un endroit où étaient cantonnés les jeunes Peuls armés, ex-djihadistes ou pas, et qui souhaitaient intégrer le processus DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion. Certains parmi eux ont perdu également la vie. Serge Daniel, Bamako RFI.
Et notez par ailleurs que le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a revendiqué l'attaque meurtrière de dimanche dernier contre un camp militaire du centre du pays. Elle l'attribue à l'une de ses branches, la Katiba du Massina.
À l'écoute d'RFI, il est 20h05 au Mali, 21h05 à Paris.
Un journal en français facile.
Avec cette question à suivre, la Russie a-t-elle trafiqué la campagne présidentielle américaine de 2016 ?
L'enquêteur spécial Robert Mueller a remis son rapport final au ministre de la Justice américain et sur ses éventuelles ingérences russes, les accusations par ailleurs de collusion entre Moscou et l'équipe de Donald Trump sont dans ce rapport. À l'heure actuelle, seule l'équipe de Robert Mueller et Bill Barr, le ministre de la Justice, en connaissent le contenu.
Qui est donc ce Robert Mueller, ce personnage très discret qui, malgré les attaques de Donald Trump, est parvenu à mener à terme sa mission.
Son portrait avec Romain Lemaresquier.
Robert Mueller est tout sauf un inconnu pour les Américains. Cet ancien officier des Marines, médaillé de guerre, a consacré toute sa vie au service de ses concitoyens. Tout l'inverse du président américain Donald Trump. Après avoir été avocat pendant quelques années, Robert Mueller devient procureur fédéral au milieu des années 80. Dès lors, il acquiert une réputation de ténacité. Après une courte pause dans le domaine privé, il revient au service de l'État en devenant numéro 2 du ministère de la Justice sous la présidence de George Bush père. S'en suivra la direction du FBI pendant 12 années. Robert Mueller, qui est inscrit en tant qu'électeur républicain, a servi des présidents de tous bords politiques. En 2011, par exemple, alors que son mandat allait expirer, Barack Obama lui avait demandé de poursuivre sa mission encore 2 ans, ce qui avait été approuvé par l'ensemble des sénateurs. Loué par la classe politique américaine pour son austérité, sa discrétion, sa droiture et sa ténacité, sa nomination pour diriger l'enquête sur les ingérences russes avait été saluée à l'époque par le camp démocrate. Il représente l'exact opposé de Donald Trump, comme aime à le rappeler ses proches. Mais ce n'est pas pour autant qu'il aura mené une enquête à charge, comme l'a démontré la carrière sans accroc qu'il a su mener jusqu'à présent.
Romain Lemaresquier, en France, le nouveau dispositif des forces de l'ordre à l'épreuve des gilets jaunes.
Et difficile encore à cette heure-ci de faire un premier bilan. Des manifestations se déroulent toujours, en tout cas à Paris. La préfecture annonce 70 personnes interpellées, dont Éric Drouet, l'une des figures du mouvement. Il y a eu aussi des affrontements, notamment à Nice, Lyon, Montpellier et Bordeaux. Dans tout le pays, le ministère de l'Intérieur parle de 40 000 manifestants. Et pour ce 19e samedi consécutif, la force sentinelle, autrement dit l'armée, avait été mobilisée.
Place à présent au mot de l'actu, et c'est le mot sentinelle que vous avez retenu, Yvan Amar.
La force sentinelle a été requise aujourd'hui en France. Elle a été requise, c'est-à-dire qu'elle a été sollicitée, on lui a demandé de travailler, on a mis les militaires sur le terrain. Parce que cette force sentinelle doit appuyer le dispositif de maintien de l'ordre assuré par la police. Alors ce qu'on appelle la force sentinelle, c'est constitué par les militaires qui sont chargés de l'opération sentinelle. Tout ça a été monté en janvier 2015, juste après un certain nombre d'attentats terroristes en France. L'opération Sentinelle, elle venait renforcer un dispositif qui existait déjà et qu'on appelle Vigipirate. Vigipirate et Sentinelle, ce ne sont pas vraiment des noms de code, mais ce sont des mots qui ont été choisis pour rassurer le public. Parce que ça renvoie à peu près à la même idée, hein, à la figure du guetteur, à celui qui prévient le danger, qu'il aperçoit quand il n'est pas encore trop tard et donc qui permet qu'on le maîtrise. Vigipirate, c'est construit autour de vigie, et une vigie sur un bateau, c'est le marin qui surveille. Et puis la sentinelle, c'est le militaire qui fait le guet. C'est ainsi qu'on appelle par exemple les soldats qui sont en faction, c'est-à-dire qui sont posté à l'entrée d'un bâtiment officiel ou d'un endroit sensible pour vérifier qui est-ce qui rentre, qui est-ce qui sort. Ça préserve la sécurité, on alerte s'il y a du danger. Donc, les mots sentinelle et vigie d'où dérive Vigipirate, ils sont bien choisis parce qu'ils n'évoquent pas une répression, une hostilité, mais ils évoquent une possibilité de réagir avant une agression. Et là, eh bien, on va retrouver les deux sens du verbe prévenir. Prévenir, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire avertir d'abord, hein, informer de quelque chose qui s'est passé ou bien qui va se passer. Mais prévenir, ça veut dire également empêcher que quelque chose se passe parce que justement, on s'aperçoit à temps de ce qui va arriver et qu'on peut stopper cette évolution. Eh bien, c'est à ça que font penser ces mots de vigipirate et sentinelle.
Merci beaucoup Yvan Amar pour toutes ces explications. À demain Zéphirin.
À demain.